Voilà, donc la fois précédente, nous avions terminé par l'étude des lettres d'assurance pour la conférence de Madrid. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui cette conférence qui, en son temps, a eu beaucoup d'écho. Alors, rappelons aussi que le 18 octobre, en même temps que les lettres d'assurance et les invitations, c'est le jour où l'Union soviétique et Israël signent un accord pour le rétablissement des relations diplomatiques, puisque c'était prévu dans le marché, ce qui donne possibilité à l'Union soviétique d'exercer son coparrainage. Les jours suivants, les délégations sont formées et acceptent formellement la conférence. La délégation palestinienne sera dirigée par un Raïda Abdel Shafi, un vétéran nationaliste, ancien communiste, qui a été l'un des fondateurs de l'OLP en 1964 et qui, depuis de nombreuses années, dirige le Croissant Rouge, donc l'équivalent de la Croix-Rouge, pour la bande de Gaza. Elle est composée de personnalités des territoires proches du Fatah ou d'anciens pro-communistes ou des indépendants. Le recrutement majoritaire de la délégation palestinienne vient du milieu des universitaires et c'est Tunis qui, au dernier moment, a fait rajouter quelques politiques, c'est-à-dire souvent des anciens maires de municipalités palestiniennes. À côté de la délégation officielle, une commission de coordination comprenant Faisal El-Husseini et Anna Nashraoui, ainsi que des experts venus de la diaspora, l'assisteront. Mais ce comité de coordination n'a pas le droit à participer directement à la négociation. La délégation passe par Amman pour préparer la coordination avec les Jordaniens et avec l'OLP, puis Moubarak rajoute des conseils sur la façon de négocier avec les Israéliens. Au Liban Sud, le Hezbollah accroît sa pression sur l'ALS et sur les troupes israéliennes. De Téhéran, le cher Moussaoui, donc le chef du Hezbollah, exprime l'opposition de son organisation à la conférence internationale. Et la rumeur court, on accuse l'Iran de vouloir préparer un attentat contre les membres de la délégation palestinienne. En Israël, Shamir, contre la volonté de son ministre des Affaires étrangères, David Levy, décide de se rendre à l'inauguration de la conférence. Du coup, Levy s'en abstient et c'est son vice-ministre des Affaires étrangères, Benjamin Netanyahu, qui le remplace. En plus, c'est un expert des relations publiques et de formation américaine. Il est parfaitement apte à toucher l'opinion publique américaine. Le ministère des Affaires étrangères israélien est peu représenté dans la délégation à Madrid. Elle est surtout composée de faucons, partisans du Grand Israël. Comme on peut s'y attendre, des grandes précautions de sécurité ont été prises dans la capitale espagnole. Au dernier moment, Arafat convoque la totalité de la délégation palestinienne et des conseillers, soit une centaine de personnes, à Alger, où ils arrivent par avion spécial. Le chef de l'OLP redistribue les rôles de chacun et marque surtout son autorité, ce qui était le but recherché. À Madrid, tous les grands médias internationaux sont présents, créant une atmosphère presque frénétique. Les porte-paroles des délégations jouent un rôle très important. Benjamin Netanyahu, de formation américaine, comme je l'ai dit, sait très bien parler au public américain, mais Hanan al-Ashrawi a un incontestable talent médiatique, donnant une autre image des Palestiniens que celle du terroriste. Les journalistes israéliens se précipitent sur leurs homologues arabes pour leur serrer la main et entamer le dialogue, mais l'accueil est plutôt froid, à l'exception des Palestiniens rompus à ce genre d'exercice. Il faut ajouter que les Israéliens sont interdits par leur gouvernement d'avoir des relations directes avec des membres notoires de l'OLP. Donc, le 30 octobre, le Premier ministre espagnol, Felipe González, souhaite la bienvenue aux participants. Puis, le président Bush inaugure les travaux. Il marque que l'ambition est bien de non pas seulement mettre fin à l'état de guerre, mais d'instaurer une vraie paix et non pas une simple non-belligérance. Cela passe par la normalisation de tous les rapports entre les États de la région. Il insiste sur la dimension bilatérale des négociations. Je cite. « La paix ne sera que le résultat de négociations directes, de compromis, de concessions mutuelles. La paix ne peut pas être imposée de l'extérieur par les États-Unis ou par qui que ce soit. Bien que nous-mêmes continuerons de faire notre possible pour aider les parties à surmonter les obstacles, la paix doit venir d'abord de l'intérieur. Nous sommes venus à Madrid en réaliste. Nous ne nous attendons pas à ce que la paix soit négociée en une journée, ni en une semaine, ni en un mois, ni même en un an. Cela prendra du temps. En fait, il faut que cela prenne du temps. Le temps pour des parties depuis si longtemps en guerre d'apprendre à se parler, à s'écouter. Le temps de guérir d'anciennes blessures et de construire la confiance. Dans cette quête, le temps ne doit pas être l'ennemi du progrès. » Fin de citation. Bush reprend ensuite le détail de l'architecture de la conférence, en souligne le caractère intérimaire des dispositions à prendre entre Israéliens et Palestiniens, ce qui ne doit pas porter préjudice aux négociations sur le statut permanent qui seront déterminées par leurs mérites propres. Israël doit entrer dans une relation nouvelle fondée sur le respect mutuel et la coopération avec ses voisins palestiniens. L'élément du discours américain qui est mal reçu par les partis arabes est l'allusion à un compromis territorial. Je cite. Nous recherchons un règlement stable et durable pour l'ensemble du Moyen-Orient. Nous n'avons pas défini ce que cela signifie. En fait, je fais ces remarques sans avoir devant moi une carte géographique montrant où doivent être tracées les frontières définitives. Néanmoins, nous estimons qu'un compromis territorial est essentiel à la paix. Les frontières devraient refléter la qualité tant des arrangements politiques que ceux relatifs à la sécurité. Les États-Unis sont prêts à accepter ce que les parties elles-mêmes jugeront acceptable. Ce que nous recherchons, c'est une solution qui satisfasse aux critères jumeaux de l'équité et de la sécurité. Gorbatchev prend ensuite la parole. C'est l'une des dernières interventions d'un président de l'Union soviétique qui n'a plus que quelques semaines à vivre. Pas lui, l'Union soviétique. Hein. Il salue dans la conférence le symbole d'une nouvelle ère de relations internationales et de règlement des conflits. Le représentant de la communauté européenne est plus précis en ce qui concerne des principes comme l'échange des territoires contre la paix et l'autodétermination du peuple palestinien. Amr Moussa, ministre égyptien des Affaires étrangères, prend la suite et se fait l'avocat de la paix fondée sur le retrait israélien de tous les territoires occupés. Le deuxième jour est inauguré par un discours d'Itzhak Shamir. Il fait tout un historique du sionisme, revendication immémoriale, et se fait le défenseur de la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Les Palestiniens sont absents de ses paroles. Les Arabes qui vivaient dans la Palestine mandataire, selon lui, ont été encouragés à partir par leurs propres dirigeants. La seule cause du conflit est le refus arabe de reconnaître l'État d'Israël, et il définit le but des négociations ainsi, je cite, « Les négociations multilatérales qui doivent accompagner les négociations bilatérales font partie intégrante de ce processus. Au cours de ces pourparlers, les composantes essentielles de la coexistence et de la coopération régionale seront discutées. Il ne saurait y avoir de véritable paix dans notre région tant que ces questions régionales ne seront pas débattues et résolues. Nous considérons que le but des négociations bilatérales est de signer des traités entre Israël et ses voisins, ainsi que de parvenir à un accord portant sur des arrangements intérimaires d'autogouvernement avec les Arabes palestiniens. » Fin de citation. Tout en insistant sur la volonté de paix d'Israël, il refuse de voir un contenu territorial dans le conflit qui a commencé avant 1967. Je cite, « Il serait regrettable que les négociations se fixent en premier lieu et exclusivement sur la question territoriale. C'est la voie la plus rapide pour se retrouver dans une impasse. Ce dont nous avons besoin en premier lieu et avant tout, c'est d'instaurer la confiance, d'écarter le danger d'une confrontation et de développer les relations dans autant de domaines que possible. » Fin de citation. Il appelle à la tenue des négociations alternativement en Israël et dans les pays arabes. Le ministre jordanien des Affaires étrangères remercie les puissances invitantes et plaide pour l'occasion historique de faire la paix, une paix honorable, durable et équitable, plus puissante que la force et fondée sur le droit. Le moment le plus attendu, mais j'ai pas le fichier, c'est dommage. Le moment le plus attendu est le discours de Haïdar Abdel-Shafi, premier palestinien à être admis à participer au processus de paix. Il dispose du même temps de parole que les autres intervenants, ce qui démontre l'aspect fictif de la délégation commune jordano-palestinienne. Il insiste sur l'existence du peuple palestinien et son historique et l'inverse de celui de Shamir, qui tendait à faire disparaître les Palestiniens de l'histoire. Je cite. « Le temps est venu pour nous de narrer notre propre histoire et de témoigner pour la défense d'une vérité trop longtemps enfouie dans la conscience du monde. Nous ne nous présentons pas devant vous comme des quémandeurs, mais comme les porteurs d'une flamme qui savent que, dans le monde d'aujourd'hui, l'ignorance ne saurait constituer une excuse. Nous ne recherchons ni un aveu de culpabilité a posteriori, ni une vengeance pour les injustices passées, mais plutôt un acte de volonté qui ferait d'une paix juste une réalité. Les coparins nous ont invités ici ce jour pour présenter notre cause et nous ouvrir à l'autre avec lequel nous avons dû affronter une réalité mutuellement exclusive sur la terre de Palestine. Mais même dans l'invitation qui nous a été adressée à cette conférence de paix, notre histoire a été déformée et notre vérité seulement en partie reconnue. Le peuple palestinien est un, brassé par des siècles d'histoire en Palestine, lié par une mémoire collective faite de joie et de peine partagée, et partageant une identité de vision et d'objectif. Nos chansons et nos ballades, nos récits traditionnels et nos contes d'enfants, le dialecte dans lequel se disent nos boutades, les images de nos poèmes, ce soupçon de mélancolie qui colore même nos instants les plus heureux, nous sont aussi importants que les liens du sang qui unissent nos familles et nos clans. » Fin de citation. Il célèbre l'unité palestinienne et sa direction, qui n'est pas mentionnée sous son nom propre de OLP. Je cite. « Pourtant, l'invitation à parler de paix, la paix que nous désirons tous et dont nous avons tous besoin, n'est adressée qu'à une partie de notre peuple. Elle ne tient pas compte de notre unité nationale, historique, organique. » Nous sommes venus ici arrachés de nos frères et sœurs en exil pour comparaître devant vous comme des Palestiniens sous occupation, bien que nous maintenions que chacun d'entre nous représente les droits et les intérêts de tous. Nous nous sommes vus dénier le droit de reconnaître publiquement la loyauté que nous portons à notre direction et à notre système de gouvernement, mais l'allégeance ni la loyauté ne peuvent être censurées ou amputées. Notre direction reconnue représente davantage qu'une direction démocratiquement élue de l'ensemble du peuple palestinien. Elle est le symbole de notre unité et de notre identité nationale, le gardien de notre passé, le protecteur de notre présent et l'espoir de notre avenir. Notre peuple a décidé de lui confier son histoire et la préservation de son précieux héritage. Cette direction a été reconnue clairement et sans équivoque par la communauté des nations, à la rare exception de quelques pays qui ont opté pendant tant d'années pour l'ombre au lieu de la substance. Il en est de même pour Jérusalem, je cite, « La Jérusalem palestinienne, capitale de notre patrie et de notre futur État, définit l'existence palestinienne passée, présente et future, mais elle-même s'est vue refuser une voie et une identité. Jérusalem brave la possessivité exclusive et l'asservissement. L'annexion israélienne de Jérusalem demeure clairement illégale aux yeux de la communauté internationale et reste un affront à la paix que mérite cette ville. » Fin de citation. Il fait le catalogue de l'oppression israélienne et de la colonisation et appelle à un esprit d'égalité et de réciprocité entre Israéliens et Palestiniens. Il faut qu'il y ait un État palestinien. Je cite. Au Moyen-Orient, il n'existe pas de peuple superflu hors du temps et de l'espace, mais plutôt un État qui fait amèrement défaut dans le temps et l'espace, l'État de Palestine. Il faut qu'il voie le jour sur la terre de Palestine afin de racheter l'injustice que fut la destruction de sa réalité historique et de libérer le peuple palestinien des fers qui en ont fait une victime. Notre patrie n'a jamais cessé d'exister dans notre esprit et dans notre cœur, mais il faut qu'elle existe en tant qu'État sur tous les territoires occupés par Israël pendant la guerre de 1967, avec Jérusalem pour capitale, et compte tenu du statut particulier de la ville et de son caractère non exclusif. L'orateur marque que le droit à l'autodétermination est un droit sacré et inviolable. Il rappelle la totalité des résolutions de l'ONU depuis la 181 de 1947, le plan de partage, et termine en reprenant la formule d'Arafat à l'ONU sur le rameau d'olivier qu'il ne faut pas laisser tomber. Le ministre libanais des Affaires étrangères lui succède. Il vante l'importance de son pays dans l'histoire de l'humanité et évoque sa reconstruction en cours. Il s'en tient à une réplication stricte de la résolution 425, celle donc sur l'évacuation du Liban, distincte de la 242. Il rejette toute implantation des Palestiniens sur le sol libanais. Le discours de Farouk el-Sharaa, ministre des Syriens des Affaires étrangères, tranche avec ceux de ses prédécesseurs. Il n'y a pas d'effusion lyrique sur la paix, mais la nécessité d'y arriver par une application stricte des résolutions des Nations Unies fondées sur le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. Il rejette le sionisme, car après tout, on pourrait demander aussi le rassemblement de tous les chrétiens au Vatican et de tous les musulmans à la Mecque. Il insiste sur la fermeté, mais aussi le sérieux des intentions syriennes. Des résultats substantiels doivent être obtenus dans les bilatérales, avant tout progrès dans les multilatérales. Le troisième jour est consacré aux réponses des parties aux interventions précédentes. Elles sont surtout chargées de récriminations et d'accusations, tout en étant des protestations de désir de paix. Ce qui frappe le plus, mais négativement, est le geste du ministre syrien des Affaires étrangères montrant une photo de Shamir à l'époque du mandat britannique avec la mention « recherché comme terroriste ». Après que les représentants européens et soviétiques aient insisté sur la volonté de tous de rechercher la paix, Baker tire la leçon de la conférence en montrant que la terre, la paix et la sécurité sont des éléments inséparables dans la recherche d'un règlement global. Shamir prétexte que le 1er novembre est un vendredi pour annoncer son retour immédiat en Israël. Il n'est pas question qu'il passe le Shabbat, à l'extérieur des frontières israéliennes. Prétexte assez futile, puisque dans ses séjours américains, il a souvent dépassé la semaine, donc il a fait le Shabbat en dehors d'Israël. Son but est de diminuer l'importance de la conférence. La presse internationale célèbre avant tout la fin des tabous que représente la présence de toutes les parties siégeant à la même table. car pour le reste, on a eu plutôt un dialogue de sourds sur le principe de l'échange des territoires contre la paix et sur l'autodétermination des Palestiniens. Il faut relativiser ce tabou, puisqu'outre le précédent de Genève en 1973, la conférence internationale est une revendication arabe depuis un grand nombre d'années. De surcroît, même pour les bilatérales, le facteur américain reste essentiel. Toutes les parties sont venues parce qu'elles ne pouvaient pas refuser l'offre des États-Unis. Étant donné les rapports de force, les Arabes ne peuvent faire avancer leurs revendications qu'en comptant sur un appui américain, et le gouvernement Shamir est sorti du statu quo qu'à cause de l'action de l'administration Bush. Pour Shamir, l'honnête courtier américain signifie seulement l'absence de pression américaine sur l'État hébreu, pas évidemment sur les autres. Les Syriens ont très mal pris l'allusion américaine à un compromis territorial, synonyme pour eux d'accord pour une annexion au moins partielle du Golan par Israël. Ils menacent de ne pas participer aux négociations bilatérales qui s'ouvrent dans la foulée de la conférence internationale le dimanche 3 novembre. Sous pression américaine, ils acceptent finalement d'être présents, mais l'atmosphère de la première réunion bilatérale israélo-syrienne restera glaciale. Cette première session a surtout un caractère formel destiné à définir les ordres du jour. Le premier obstacle est celui du lieu des prochaines sessions. Les Israéliens voulant qu'elles se tiennent au Moyen-Orient en signe de normalisation, les Arabes refusant pour la même raison de céder quoi que ce soit, sans contrepartie. Les Palestiniens souhaitent demander un lieu neutre en dehors de la région. Les Syriens, avec eux les Libanais, proposent Washington pour qu'il y ait une meilleure coordination avec les Américains. La question subsidiaire est celle de la simultanéité ou non de ces sessions, permettant ou non une coordination entre les délégations arabes. Mais il est vrai que Palestiniens et Jordaniens se méfient de la volonté syrienne de mener le jeu au nom de la coordination, ceci en dépit des entretiens réguliers entre Arafat et Assad et le roi Hussein. Les Palestiniens ont le sentiment d'un nouveau succès du fait que la partie palestinienne a négocié directement avec la partie israélienne, le but étant de démontrer que la délégation jordano-palestinienne n'est qu'une fiction juridique. La conférence de Madrid a provoqué un sentiment d'euphorie dans les territoires occupés. La délégation palestinienne est reçue en triomphe lors de son retour. Les délégués sont moins optimistes, sachant que le plus difficile est à venir. Le Fatah s'inquiète du prestige acquis par les négociateurs et tente d'imposer un contrôle politique de leur action, d'où une certaine tension entre les différents acteurs que ravivent les rivalités personnelles. Le Hamas avec la gauche palestinienne forme une espèce de front du refus. Dans les camps palestiniens, en dehors de la Palestine, on exprime surtout un sentiment d'amertume du fait que l'on n'ait pratiquement pas évoqué le droit au retour des réfugiés. Le gouvernement Shamir procède à une provocation délibérée en installant le 4 novembre une nouvelle colonie de peuplement sur le Golan avec une bonne part d'immigrants soviétiques. Le 11 novembre, la Knesset adopte, avec le concours des députés travaillistes, une résolution stipulant que le Golan, partie intégrante d'Israël, et assise importante de la sécurité, ne sera pas négociable. On menace Hanan Ashrawi de poursuites judiciaires pour contact avec une organisation terroriste. Le président Bush prend directement publiquement sa défense, d'où le fait que les Israéliens se rétractent rapidement. Ehud Olmert, ministre de la Santé, tire la leçon de l'incident le 17 novembre. Je cite « À nos yeux, Mme Ashrawi est identifiée à l'OLP et c'est pourquoi nous l'avions refusée comme interlocutrice à Madrid. » La loi interdit toute rencontre avec l'OLP, mais comment interdire à l'OLP de rencontrer avec elle-même ? Fin de citation. le raidissement israélien est net. Durant toute la période, le front du Liban Sud est en pleine activité. Face aux attaques de la résistance islamique, Israël multiplie les raids aériens et les bombardements de son artillerie. Au-delà, l'État hébreu s'en tient à son exigence de légalisation de l'ALS pour appliquer la résolution 425, ce qui est inacceptable pour la Seconde République libanaise, déjà écartelée entre son projet de reconstruction du pays et la poursuite de la résistance contre l'occupation. Selon le coordinateur de la politique israélienne au Liban, Uri Librani, le 10 novembre, selon le coordinateur de la politique israélienne au Liban, et Uri Librani, nous tentons de mettre en garde la population des secteurs à partir desquels le Hezbollah et d'autres organisations lancent des opérations contre le fait qu'elle se met en danger car elle s'expose à des actions de représailles de notre part. C'est avoué que les dommages causés aux civils en pertes matérielles et humaines ne sont pas collatérales, mais voulus. À la mi-novembre, Shamir se rend pour plusieurs jours aux États-Unis afin de collecter le plus de fonds possible, afin de moins dépendre des garanties bancaires. Il affirme avant son départ que la localisation des négociations ne constituait pas une question technique insurmontable, mais qu'elle pouvait avoir de l'influence sur la portée des pourparlers et sur leur durée. Pour lui, elles doivent avoir lieu au Proche-Orient en mesure d'établissement de la confiance. Dans ses discours publics, il exclut toute possibilité de rétrocession territoriale au nom des impératifs de sécurité d'Israël et de ses droits historiques. Lors de son entretien avec Bush et Baker le 22 novembre, il réitère toutes ses positions, en particulier sur la localisation des négociations. Baker propose en matière de transactions Rome ou Chypre et dans les médias Washington. Le dossier reste apparemment ouvert. Pendant ce temps, les Américains étudient avec les Palestiniens la possibilité de tenir la session des bilatérales à Washington, ce qui pose le problème de l'accès aux États-Unis des experts de l'OLP, c'est-à-dire leur obtention de visa américain. Après avoir consulté Tunis, la délégation palestinienne donne son accord et le 23 novembre, Achraoui, qui n'a pas reçu de consigne américaine dans ce domaine, déclare que les Palestiniens sont d'accord pour le 4 décembre à Washington. Cela provoque une crise entre le gouvernement Shamir et l'administration Bush. Le premier ministre rejette la proposition américaine que toutes les délégations arabes s'empressent d'accepter. Shamir invoque la fête juive de Hanouka le 4 décembre, mais qui n'est pas un jour chômé en Israël, et propose le 9 décembre. L'administration Bush, qui voit un prétexte, passe outre. Le département d'État propose en revanche que la délégation jordano-palestinienne siège dans une salle unique, ce qui implique qu'elle ne se sépare pas en deux entités distinctes. Alors que Shamir joue la carte de la fierté nationale pour s'opposer aux Américains, ces derniers proposent des mesures d'établissement de la confiance comme le retrait éventuellement à titre temporaire du secteur de Jézine au Liban Sud. L'étude des contreparties syriennes à un éventuel retrait israélien du Liban ou la résolution des problèmes d'intérêt commun entre Israël et la Jordanie, gestion des ressources en eau, tourisme, délimitation définitive de la frontière. Le mercredi 4 décembre, les délégations arabes sont ostensiblement présentes pour montrer la défection israélienne. Elles se taillent un franc succès en marquant que l'obstruction israélienne met en danger le processus de paix, alors que leur présence montre le sérieux de leurs intentions. En revanche, elles rejettent la date du 9 décembre, anniversaire du début de l'intifada, ceci par respect pour les victimes. Il en est de même pour l'idée israélienne de tenue des réunions préparatoires pour fixer les ordres du jour et différentes questions techniques. Les Arabes insistent pour que ce soit les Américains qui fassent les intermédiaires. Ces derniers s'y refusent tout en maintenant leur rôle de catalyseur et de médiateur, enfin de gens faisant des propositions de compromis. Le 10 décembre, les Israéliens refusent de recevoir les Israéliens à part des Jordaniens. Les intéressés rejettent la position israélienne. Pour Hanan al-Ashrawi, je cite, « Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la procédure, mais pour négocier sérieusement. Les Palestiniens sont au cœur du conflit. Nous offrons la paix. Il doit être clairement établi que les Palestiniens ne se considèrent pas comme une sous-commission et qu'on ne les traitera pas comme tels. Nous venons négocier avec les Israéliens sur la base de la parité et de la réciprocité. » Fin de citation. Les Américains s'en tiennent à une neutralité passive et ferment à clé la porte de la salle de la réunion. Les trois chefs de délégation, le Jordanien, le Palestinien et l'Israélien, se réunissent dans un couloir du département d'État en partageant un canapé. Cette diplomatie du couloir ne réussit pas à trouver une solution. La réunion israélo-libanaise se tient dans une atmosphère de travail, tandis que la rencontre israélo-syrienne est plutôt glaciale du fait des comportements des deux parties qui échangent griefs, accusations et invectives. Dans les deux cas, au lieu d'aborder les mesures d'établissement de la confiance souhaitées par les Américains, on en est resté à la question de fond de l'exégèse des résolutions 242 et 425. Damas considère qu'il n'y a pas à attendre rien à attendre de la part du gouvernement Shamir et que les choses sérieuses ne commenceront qu'avec un autre gouvernement israélien. Les mesures de normalisation souhaitées par les Américains lui apparaissent comme des concessions unilatérales, risquant de diminuer la position des Arabes, dont la force réside sur les principes. Les Syriens n'ont pas tort, puisque Shamir proclame que l'objectif des négociateurs israéliens est d'obtenir la paix tout en conservant les territoires. Le lundi 16 décembre 1991, l'Assemblée générale de l'ONU vote par 111 voix contre 25 et 13 abstentions, 17 pays ne prenant pas part au vote, l'annulation de la résolution 3379 du 10 novembre 1975, assimilant le sionisme à une certaine forme de racisme et de discrimination raciale. C'est une grande victoire morale pour Israël, qui la doit très largement à l'activisme américain. En revanche, c'est toujours l'impasse à Washington en ce qui concerne la représentation palestinienne, tandis que la délégation israélienne soulève la question de la présence militaire syrienne au Liban. Excusez-moi. Le 18 décembre, la prochaine session des bilatérales est fixée au 7 janvier, ce qui donne un certain délai pour résoudre les questions de procédure. Benjamin Netanyahu triomphe, je cite, « L'essentiel est d'avoir créé un cadre de négociation qui permettra de poursuivre les entretiens. Les Arabes ont voulu nous forcer la main, ils n'ont pas réussi, ils comprennent à présent que pour parler avec nous, il faut respecter des règles fixées à l'avance. » Fin de citation. Le 19 décembre, le président Bush déplore le peu de progrès enregistré du fait des questions de procédure. Il qualifie les colonies israéliennes d'obstacles à la paix et relance l'idée de la fin du boycottage arabe contre le gel de la colonisation. Il précise qu'aucune décision n'a été prise en ce qui concerne les garanties bancaires. La nuit suivante, un commando israélien enlève trois Libanais dans le fief du Hezbollah, le village de Jibshit, où le cher Obeid avait déjà été enlevé. Une bombe à retardement laissée dans la boucherie appartenant à l'un des trois kidnappés explose, ensuite tuant ses deux fils de 13 et 15 ans et un client. Le porte-parole du département d'État exprime sa préoccupation devant ces actes de provocation qui ne peuvent qu'aggraver la situation. Deux jours après, les intéressés sont libérés après interrogatoire. La presse israélienne parle d'erreur de la part des militaires. Ehud Barak justifie ainsi l'opération, je cite, « Le but de l'opération était de faire échec et d'empêcher les opérations terroristes au Liban tout en leur faisant sentir aux auteurs de ces opérations que l'armée israélienne peut agir là où elle se trouve, y compris en dehors de la zone de sécurité. Fin de citation. Dans cette ligne, un certain nombre de villages où est implanté le Hezbollah est bombardé par l'artillerie israélienne. Uri Loubrani affirme qu'Israël exigera la signature d'un traité de paix avant tout retrait du Liban, alors que les Libanais, comme d'habitude, s'en tiennent à l'application exclusive de la résolution 425. Israël cède le 22 décembre sur le lieu de négociation, ce sera bien Washington. En revanche, devant la reprise des attentats meurtriers en Cisjordanie, Moshe Arendt a décidé de reprendre la politique de bannissement afin d'apaiser les colons qui entreprennent des actions de représailles contre la population palestinienne. On s'attaque et on saccage les voitures, les maisons et on déracine des arbres. Selon le curieux raisonnement du ministre de la Défense, ces bannissements permettront de calmer la situation et faciliteront ainsi le processus de paix. Les Américains ont exprimé immédiatement leur opposition. Le 26 décembre, pour mémoire, voit la fin officielle de l'Union soviétique. La Russie lui succède au siège de membre permanent du Conseil de sécurité et au co-parrainage de la conférence de, enfin, du processus de paix, ce dernier point étant largement formel. À la Knesset, le gouvernement Shamir est de plus en plus affaibli. Le Likoud s'oppose au projet de loi plutôt populaire d'une élection directe du Premier ministre avec maintien du vote à la proportionnelle des députés. C'est vu comme une panacée au marchandage parlementaire accompagnant la formation d'une coalition. Le vote du budget 1992 est difficile. Il ne passe que le 2 janvier, après des concessions financières aux partis religieux. Après l'assassinat par balle d'un colon le 1er janvier dans la bande de Gaza, Moshe Arendt passe aux actes le lendemain et annonce le bannissement sans jugement de 12 activistes palestiniens. La délégation palestinienne réunie à Jérusalem décide de reporter son départ pour Washington, mais il n'est pas question de se retirer de la négociation, la décision appartenant à l'OLP. Les États-Unis s'expriment fermement sur le sujet et votent la résolution 726 du Conseil de sécurité le 6 janvier 1992, adoptée à l'unanimité, qui condamne fermement Israël, puissance occupante, pour sa décision de procéder de nouveau à des expulsions de civils palestiniens et en qui reprend ensuite l'argument habituel sur l'application des conventions de Genève. Autre geste américain, l'octroi à un cadre de l'OLP, Nabil Chart, d'un visa pour se rendre à Washington afin de servir discrètement de conseiller à la délégation palestinienne. Il dépend de Mahmoud Abbas, ce qui n'interdit pas à Arafat d'intervenir directement ou de passer par un autre intermédiaire, d'où une certaine confusion. Il est vrai que l'on trouve ces universitaires s'attachant aux principes trop peu politiques. Ces gestes s'ajoutent à une solution de compromis concernant la délégation palestinienne, permettant de sauver la face des uns et des autres. Durant chaque session, il y aura une séance plénière où la délégation jordano-palestinienne siégera face à la délégation israélienne, puis il y aura séparation. Les 13 délégués israéliens siégeront face à 11 jordaniens et 2 palestiniens pour le versant jordanien, et 11 palestiniens et 2 jordaniens pour le versant palestinien. En Israël, l'extrême droite s'oppose à la discussion même de l'autonomie palestinienne, qui serait le premier pas vers la continuation d'un État palestinien. Shamir laisse entendre qu'il conditionnera la discussion à l'obtention préalable des garanties bancaires américaines. En effet, l'intégration des Juifs soviétiques arrivés en masse se déroule difficilement, faute de ressources économiques. Certains d'entre eux souhaiteraient quitter Israël pour s'installer dans les pays occidentaux, mais ces derniers refusent, refoulant comme le font les Pays-Bas, les immigrés déçus venant d'Israël. Le 6 janvier, la Knesset examine le projet de loi sur l'élection directe du Premier ministre. Le vote est serré, le Likoud ayant décidé de s'y opposer. Mais Netanyahou, qui y voit son intérêt personnel, fait défection et vote dans la nuit pour le projet qui passe par 57 voix contre 56. Le 13 janvier se tient la nouvelle session des bilatérales à Washington. Les Palestiniens soumettent un document complet que les Israéliens promettent d'étudier. Ils refusent d'admettre la notion de peuple palestinien, de territoire occupé, d'application de la résolution de 142 et de droit à l'autodétermination. On échange des propositions de calendrier. Pour le reste, c'est toujours le dialogue de sourds avec le, comme mérite celui d'exister. L'ambiance la plus détendue est entre Jordaniens et Israéliens qui ont décidé d'échanger leur vision de la paix respective. À la mi-janvier, l'extrême droite israélienne met sa menace à exécution et quitte la majorité parlementaire. Pour elle, le simple fait de négocier risquerait de conduire à l'autonomie promise à Camp David, ce qui pourrait déboucher sur un État palestinien. Shamir ne comprend pas cette attitude. Il n'a pas l'intention d'abandonner le moindre des territoires et cette décision fait le jeu de la gauche israélienne. Le gouvernement est maintenant minoritaire et Rabin, cette fois, rejette toute perspective d'un retour au gouvernement d'Union nationale. Les travaillistes appellent à de nouvelles élections. Ils ne réussissent pas à faire passer une motion de censure, mais finalement un accord entre les deux grands partis permet de fixer les prochaines élections au 25 juin. Au 23 juin, pardon. Pour Shamir, le processus de paix doit permettre de maintenir des bonnes relations avec les États-Unis. L'obtention des garanties bancaires est indispensable pour une économie israélienne à bout de souffle et devant faire face aussi au coût de l'intifada, de l'immigration juive soviétique et de la colonisation. Sinon, le taux de chômage atteindra 16,5% d'ici 1995. Mais en même temps, Shamir se livre à une véritable provocation à l'administration Bush en lançant sa campagne électorale le 22 janvier 1992 à partir d'une colonie juive à 15 km de Jérusalem. S'adressant aux colons enthousiastes, il leur lance, je cite, « Ne craignez rien, les colonies juives comme la vôtre sont permanentes et même éternelles. » Fin de citation. « Il ne faut pas avoir peur d'un plan d'autonomie. Son application éventuelle ne portera préjudice ni au développement des colonies, ni à la sécurité des habitants juifs des territoires. Visant les États-Unis, il déclare, « Aucune puissance au monde ne nous empêchera de bâtir partout, en Judée et en Samarie. » En dépit de l'expérience précédente, Shamir ne semble pas avoir compris que l'administration Bush ne se contenterait pas de protestations purement verbales, contrairement à ses prédécesseurs. Pour Bush comme pour Baker, la colonisation constitue réellement un obstacle à la paix. Ils sont par ailleurs décidés à remettre à leur place les groupes de pression pro-israéliens qui leur semblent aller contre l'intérêt national américain. Ils sont décidés à imposer à Shamir de choisir entre la colonisation et les garanties bancaires. Ils proposent donc d'accorder des garanties par tranche annuelle de 2 milliards de dollars, dont serait retranché le montant du budget israélien accordé à la colonisation, à l'exception de l'achèvement des travaux en cours. Il s'agit d'éviter un jeu d'écriture entre les dépenses à l'intérieur d'Israël et celles accordées à la colonisation. La partie israélienne refuse toute conditionnalité américaine. Israël enregistre un succès diplomatique avec l'ouverture des relations diplomatiques avec la Chine populaire le 24 janvier 1992. Comme il se doit, l'État hébreu doit reconnaître que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Par symétrie, la conférence multilatérale pour la paix au Proche-Orient doit se réunir à Moscou à la fin janvier. En dépit d'efforts diplomatiques, les États arabes n'arrivent pas à définir une position commune. La Syrie, qui refuse toute normalisation préalable, a décidé de ne pas y participer et le Liban calque son attitude sur elle. Au sein de l'OLP, Farouk Kademi est partisan de la ligne syrienne, tandis que Mahmoud Abbas soutient la participation. L'enjeu est compliqué du fait que l'OLP veut non seulement que la délégation palestinienne siège séparément, mais qu'elles comprennent aussi des éléments de la diaspora palestinienne puisque l'on aborde des questions concernant les Palestiniens de l'extérieur. Washington refuse tout ce qui pourrait être ressemblant à une présence de l'OLP. De surcroît, les sujets abordés appartiennent au registre de la souveraineté, l'eau, l'environnement, la sécurité, le contrôle des armements, le développement économique. Toute participation palestinienne à ce sujet marquerait une avancée dans ce point crucial. Israël n'entend pas que la question des réfugiés constitue un sujet à part. Il en est de même pour la question des droits de l'homme envisagée exclusivement du point de vue de l'occupation israélienne et celle du statut de Jérusalem qui n'est pas négociable pour la partie israélienne. Finalement, au dernier moment, là vous avez la délégation palestinienne, Anan Ashrawi, Faisal Al-Husseini, Hassan Ratib, Zahira Kamal, Saïd Erekat. En fait, c'est lui, hein. Faisal Al-Husseini, là, c'est Anan Ashrawi. Finalement, au dernier moment, Arafat impose à la délégation palestinienne la présence de représentants de l'extérieur qu'elle retrouve à Moscou. La session inaugurale de deux jours débute le 28 janvier. Sont présents la Turquie, la Chine, le Japon et le Canada, absents à Madrid, ainsi que la communauté européenne. La plupart des pays arabes, en particulier ceux du Golfe, ont accepté l'invitation. La Russie et les États-Unis s'entendent immédiatement pour refuser l'accès à la délégation palestinienne à cause des représentants de Jérusalem et de l'OLP. Ashrawi se paye un beau succès dans sa conférence de presse où elle marque la volonté palestinienne de ne pas se faire dicter par les autres sa composition et ses décisions. Pour le reste, c'est un parfait exemple du oui-non, l'aram en arabe, à l'Arafat qui n'a pas tranché entre la participation et la non-participation. Les autres participants arabes sont mécontents de ce comportement qui les met en position difficile par rapport à leur opinion publique. Les Israéliens se félicitent de cette esquisse de normalisation et de l'échec du passage en force des Palestiniens. Ils ont à l'esprit de vastes projets de coopération économique sur le modèle européen dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme, des communications, de la santé et des transports. Le but est d'arriver à une sorte d'intégration économique, créant une dépendance mutuelle qui serait un facteur de paix supplémentaire. Ces projets mirifiques ont tout pour inquiéter les Arabes, qui voient une volonté d'établir une hégémonie économique. De toute façon, ils ne prennent pas en compte le cloisonnement des économies régionales, où finalement la circulation des hommes l'emporte sur celle des marchandises. La conférence décide la mise en place de 5 groupes de travail sur la sécurité présidée par les États-Unis et la Russie de façon tournante, sur le développement économique, États-Unis-Japon, sur l'environnement, communauté européenne, Japon, États-Unis, sur l'eau, États-Unis-Japon, communauté européenne, et malgré l'opposition d'Israël, sur les réfugiés, commission dirigée par le Canada. Il y aura un super comité d'orientation chargé de superviser l'organisation des travaux avec la Russie, la communauté européenne, le Japon, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Dans l'immédiat, on considère que la campagne électorale israélienne interdit toute progression diplomatique majeure. L'opposition américaine à l'octroi sans condition des garanties bancaires est maintenue sur la place publique. En dépit du but de campagne présidentielle américaine, ce n'est pas un facteur de mobilisation politique aux États-Unis. Pour la première fois, les amis d'Israël ne réussissent pas à imposer leur volonté. Il est vrai que la récession économique en cours rend plutôt impopulaire l'aide américaine à l'étranger. Là, on va repasser une affaire un peu française sur les bords. Le 27 janvier 1992, la Croix-Rouge française est saisie d'une demande de celle d'hospitaliser en France Georges Abache, qui vient d'être victime d'une attaque cérébrale. La demande vient de l'OLP à Tunis. Après avoir consulté le Quai d'Orsay, l'institution donne une réponse favorable. Pour elle, c'est une affaire de routine, d'autant plus qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt en France ou à l'étranger concernant Georges Abache. Le chef du FPLP, porteur d'un passeport diplomatique algérien, arrive en avion sanitaire le soir du 29 janvier. La télévision filme son arrivée. Il semble que jusque-là, ni le président ni les ministres concernés n'aient été informés, l'affaire ayant été traitée entre cabinets ministériels. Alors que l'opposition se saisit de l'affaire, que des militants sionistes radicaux manifestent devant l'hôpital et qu'Israël déclare étudier une demande d'extradition, le président Mitterrand décide le renvoi immédiat à la bâche, son état de santé ne justifiant pas une hospitalisation prolongée. Les sanctions sont sévères en ce qui concerne les hauts fonctionnaires, au moins pour la forme, puisqu'ils retrouveront ensuite des postes enviables. Les politiques sont épargnés. Un juge qui souhaite entendre à Bâche se voit opposer un avis médical contraire, et il n'insiste pas. De son côté, l'Algérie intervient vigoureusement auprès des autorités françaises, puisque à Bâche est couvert par un passeport diplomatique algérien. Le 1er février, l'intéressé quitte le territoire français. L'opposition crie au scandale et va jusqu'à demander des élections législatives anticipées. Le psychodrame dure quelques jours avant de s'essouffler suite au rejet d'une motion de censure. Néanmoins, le gouvernement socialiste d'Edith Cresson, qui était déjà en difficulté, sort très affaibli de cette crise. Dans ses souvenirs, Georges Abbache affirme qu'il n'y a pas eu d'attaque cérébrale, mais de simples problèmes de tension. Il soupçonne une manipulation obscure, voire une tentative avortée d'assassinat. On est plutôt face à une cascade d'erreurs et ainsi face à un changement d'appréciation des méthodes de libération se rapprochant du terrorisme. Une affaire subsidiaire se greffe sur cette affaire. La chaîne de télévision américaine CNN diffuse le 11 février des extraits entre guillemets, fourni par un service de renseignement occidental, fin des guillemets, d'un document qu'elle présente comme l'enregistrement d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le jeudi 30 janvier, 24 heures après l'arrivée de Georges Abbache à Paris, entre Yasser Arafat, président de l'OLP, et son représentant en France, Ibrahim Sousse. Ce qui est en cause est le passage suivant. Sousse, Abou Ammar, c'est le nom de guerre de Arafat. Le gouvernement n'a rien à voir avec cette affaire. Le gouvernement français n'a rien à voir avec cette affaire. C'est l'opposition et les Juifs. Les Juifs sont au travail. Arafat, les Juifs au travail. Maudits soient leurs pères, les chiens, crasses, saletés. Tout ça pour un malade. J'ai pris soin de leurs prisonniers, j'ai soigné leurs malades, mais l'ordure reste l'ordure. Et un peu plus loin, Arafat, rien d'autre à dire. Merci aux Juifs pourris avec qui nous réglerons nos comptes dans l'avenir. Fin de citation. L'OLP dément l'authenticité du document et évoque une manipulation israélienne. Immédiatement, Jean Kahn, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, déclare notamment le 12 février « Si les propos prêtés à M. Arafat et Sousse s'avèrent exacts, cela renforcerait notre conviction qu'ils sont antisémites. La communauté juive a de quoi s'inquiéter. » Shimon Peres estime que les horreurs qu'aurait exprimées Arafat s'expliquent à la fois pourquoi les Israéliens n'ont pas confiance en cet homme et combien il était difficile de percevoir en lui le représentant du processus de paix. Ceci dans la norme des réactions israéliennes, y compris dans le camp de la paix. Ibrahim Sousse parle de montage et rappelle la différence de perception. Je cite. Le terme juif est utilisé dans le monde arabe pour tout ce qui a trait aux juifs et aux Israéliens. Dans la bouche d'un arabe, cela ne revêt aucune connotation raciste ou raciale. Que l'Occident coupable d'avoir massacré des millions de juifs nous laisse tranquilles, nous et nos cousins sémites. Pour vous, les juifs sont vos victimes. Pour nous, les juifs sont des Israéliens, donc nos bourreaux, ceux qui occupent notre terre et tuent nos enfants. Fin de citation. De toute façon, on imagine mal Arafat avoir une perception positive des Israéliens et de leur soutien. À l'extérieur, il faut se rappeler que durant les guerres mondiales, les Français appelaient les Allemands les Boches, les Anglais les appelaient les Huns. La culture de guerre, en général, continue à développer ce genre de vocabulaire agressif. Bien, nous allons faire la pause de 5-6 minutes, là, Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais moi, oui.